Vous écoutez On lit pour vous.
You-Alling, algorithmes amoureux, le numérique peut-il redéfinir l'amour? Un texte de Benoît Mignot, paru le 22 juin 2026 dans le magazine Fugue. 2 ans après une rupture éprouvante, Ash se replonge dans l'univers des rencontres amoureuses via les applications. Elle réalise cependant que l'abondance de choix ne garantit ni les connexions authentiques, ni une plus grande clarté sur ce qu'elle cherche vraiment. La suite très attendue de la web-série québécoise à succès, qui a déjà conquis les cœurs. La première saison explorait les retombées de la rupture entre Jeanne et Iris, empreinte de peine, de colère et de doute, ainsi que le processus de reconstruction qui s'ensuit. La deuxième saison, qui porte le sous-titre « Algorithmes amoureux », prolonge cette réflexion en la transposant dans l'univers des applications de rencontre. L'intrigue suit Ash, excellente Célia Gouin-Arsenault, qui, 3 ans après une relation ayant duré à peine 2 mois, au grand désarroi de ses amis, insérez ici leur haussement de sourcils impatient, décide de repartir à la recherche de la femme spéciale à travers les applications de rencontre. Elle y multiplie les échanges, enchaîne des matchs éphémères et des rendez-vous trompeusement prometteurs. Elle se rend bien vite compte qu'alors qu'elle craignait de ne rien y trouver, elle fait plutôt face au paradoxe du « trop, c'est comme pas assez ». Mais Ash se voit également confrontée à une question fondamentale. Quelles sont réellement ses attentes au-delà du simple désir de rencontrer une femme qui lui plaît? Le choix illimité et la rapidité des attachements révèlent rapidement leur revers, tandis qu'elle découvre, à sa propre surprise, des relations plus profondes chez son cercle d'amis. Ces derniers alternent entre un soutien émotionnel sincère et un humour mordant dans l'évaluation de ses partenaires potentiels. Lucas, Mathureau, notamment, se distingue par un cynisme aussi lucide qu'hilarant, tant à propos de ses propres relations que de celles de son entourage, allant jusqu'à qualifier le chum de son amie Mathilde de « beau tapis d'entrée ». Mathilde, elle-même, n'est pas en reste et fait preuve d'une franchise désarmante dans la quête de la partenaire idéale pour Ash. OK, c'est beau, on peut recommencer à être superficiel. Écrite et réalisée par le cinéaste trans Danny Vermette, la web-série, composée de 6 épisodes d'une 10aine de minutes pour la première saison et de 8 pour la seconde, se distingue par la finesse avec laquelle elle explore les dynamiques amoureuses. Portée par une distribution d'une grande justesse, elle donne vie à des personnages à la fois nuancés, complexes et profondément attachants. La série offre également une représentation queer sensible et contemporaine, tout en naviguant avec finesse entre humour, drame et tendresse. Elle propose également une véritable immersion dans la nature urbaine de Montréal, tout en mettant en valeur l'architecture de petits coins méconnus. Dès sa première saison, la série s'est imposée comme la plus visionnée sur la plateforme TV5 Monde Plus à l'échelle internationale. Et force est de constater qu'à peine entamée, les épisodes de cette nouvelle saison s'enchaîne avec gourmandise, comme un collier de perles que l'on enfile d'un seul coup. Info, les 2 saisons de la série Hugh Holling et Hugh Holling Algorithmes amoureux sont disponibles en français sur TV5 Uni. C'était Hugh Holling Algorithmes amoureux, le numérique peut-il redéfinir l'amour? Un texte de Benoît Mignot, paru le 22 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Le combat des enfants ukrainiens. Un dossier de Magdalene Boutros, paru le 4 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte. Gardé à 13 ans en territoire contrôlé par la Russie. Et Danilo Yatsenyuk vivait à Kherson avec sa famille lorsque l'armée russe a conquis les villes du sud de l'Ukraine en mars 2022. Peu après, l'adolescent de 13 ans est parti en colonie de vacances en Crimée. Comme des milliers d'autres enfants ukrainiens, Danilo n'a pas été autorisé par les autorités russes à rentrer chez lui à la fin de son séjour de 2 semaines. Ce n'est que 6 mois plus tard qu'il a pu retrouver sa famille. Aujourd'hui âgé de 16 ans, il a accepté de raconter son histoire au Devoir. Quand la guerre a commencé, c'était effrayant, raconte le jeune homme en entrevue virtuelle. Les bombardements étaient constants et la peur omniprésente. Kherson a été la première grande ville ukrainienne à tomber. Rapidement, les autorités russes ont étendu leur contrôle sur l'agglomération. Les écoles ont adopté le programme scolaire russe et le rouble est devenu la seule monnaie autorisée. À l'automne, des élèves se sont fait offrir de participer à des camps de vacances en Crimée pour se reposer. La péninsule ukrainienne, bordant la mer Noire, est sous contrôle russe depuis 2014. D'autres enfants de l'école y étaient allés et nous avaient dit que c'était bien. La mère de Danilo a d'abord refusé. J'étais triste et j'ai insisté. Alla Yatsenyuk a finalement cédé et accepté que son fils parte en colonie de vacances pour 2 semaines. Avec des dizaines d'autres enfants ukrainiens, Danilo a embarqué dans un bus pour séjourner au camp Druzhba, amitié en français. Au début, tout était normal. Mais une semaine plus tard, les responsables du camp ont réuni les enfants pour leur annoncer qu'aucun d'entre eux ne pourrait repartir à Kherson, puisque la ville avait été reprise par l'armée ukrainienne. Kherson a été officiellement reconquise le 11 novembre 2022. Ils nous ont dit que les soldats ukrainiens allaient nous tuer parce qu'ils avaient séjourné en territoire contrôlé par la Russie et qu'ils mangeaient les enfants. Ils nous disaient qu'en Crimée, on était en sécurité sous la protection des soldats russes. De la propagande, dénonce aujourd'hui Danilo, mais qui était difficile à déceler lorsqu'il était sur place. Ils nous disaient que les Ukrainiens sont des nazis, qu'ils bombardent leur propre pays. Et on les a crus. On était des enfants. On ne comprenait pas qu'ils pouvaient nous mentir. Propagande et spectacle. Des centaines d'enfants ukrainiens séjournaient avec lui, d'abord au camp Druzhba et plus tard au camp Louchesti, éclat de lumière en français, où il a été transféré pour l'hiver. Les deux colonies de vacances sont situées près de la localité de Yevpatoria. Danilo avait son téléphone avec lui. « J'allais mieux que d'autres enfants parce que je communiquais avec ma mère tous les jours. » « J'avais un support émotionnel », souffle-t-il. Dans un premier temps, les activités habituelles du camp se sont poursuivies. Volleyball, échecs, cinéma. Puis, des leçons ont été organisées. Des professeurs allaient dans la cafétéria et nous parlaient de l'histoire de la Russie, nous apprenaient les mathématiques, la langue russe. « Il ne s'agissait pas de véritables cours », indique Danilo. On n'avait pas de devoirs. Et si on allait simplement discuter avec les professeurs, on avait de bonnes notes. Ils disaient que ça allait nous aider à entrer dans une bonne université en Russie. La langue russe était obligatoire. Pour moi, c'était normal, puisque c'est ma langue maternelle, mentionne Danilo. Mais des enfants ukrainiens récalcitrants ont été emmenés en isolement. Régulièrement, des personnalités politiques visitaient le camp. Les enfants ukrainiens devaient alors leur présenter des spectacles composés de chants patriotiques russes et de pièces de théâtre en russe. On n'avait pas le choix, on devait y participer. Le tout était souvent filmé, puis diffusé à titre d'outil de propagande. Rapatrier Danilo. Pendant ce temps, Alla Yatsentiouk cherchait une solution pour rapatrier son fils. Mais aller en Crimée signifiait se rendre dans les territoires occupés par la Russie. Elle n'avait aucune garantie qu'elle serait en sécurité, souligne son fils, ni qu'elle pourrait simplement en ressortir. Alla a finalement pris contact avec l'organisme humanitaire Save Ukraine, dont la mission est d'aider les enfants ukrainiens à rentrer au pays. Un groupe de mères a pris forme et elles se sont envolées pour Moscou. À l'aéroport, ma mère a été interrogée pendant 14 heures par les services secrets russes, dit Danilo. Une fois relâchée, Alla a pris un bus avec les autres mères pour descendre en Crimée. À leur arrivée au camp, les responsables ont fait venir des journalistes de télévision. Elle s'est fait dire de mentionner que de bonnes choses de la Russie, du camp et de tout ce qui est arrivé. C'est seulement après qu'Alla a pu revoir son fils et que les autres mères du groupe ont été réunies avec leurs enfants. À travers les pleurs et les étreintes, les caméras ont continué de filmer. Le reportage télé mentionnait que c'est grâce à la Russie que les réunifications ont pu se produire et que les Ukrainiens n'ont rien fait pour ça. De la propagande, encore une fois, déplore Danilo. 6 mois après être arrivé en Crimée, le jeune homme a finalement pu regagner son pays. Danilo est arrivé à Kiev le 8 avril 2023. Il a pu serrer dans ses bras son petit frère, son père et ses grands-parents. Malgré ce séjour forcé loin de sa famille, il dit n'avoir subi aucun traumatisme. « Mais à mon retour, j'ai compris que les Russes nous ont menti, que ce sont eux qui détruisent l'Ukraine et tuent des gens et pas l'armée ukrainienne. J'ai compris qu'ils ont voulu nous zombifier et faire de nous des Russes. » Vous écoutez « Le combat des enfants ukrainiens ». Un dossier de Magdalene Boutros, paru le 4 juillet 2026 dans Le Devoir. Deuxième texte. Militarisé dès l'école primaire. Lorsque des enfants sont rapatriés en Ukraine depuis des territoires contrôlés par la Russie, un vaste réseau de soutien se déploie autour d'eux. Certains souffrent de traumatismes, d'autres ont de la difficulté à réintégrer leur vie. Et tous doivent rebâtir leur confiance. Un accompagnement qui est encore plus crucial depuis que les autorités russes militarisent les enfants dans les écoles et les camps de vacances. Pour Yulia Tukalenko, psychologue à la fondation Voices of Children en Ukraine, il s'agit de l'une des conséquences les plus terrifiantes de la propagande russe et des politiques déployées par le Kremlin. Ce n'est absolument pas une question de choix pour ces jeunes. Nous allons devoir gérer les conséquences de cette militarisation pendant de nombreuses années, souffle-t-elle en entrevue virtuelle depuis Kiev. Lorsque des familles ou des enfants non accompagnés réussissent à quitter des territoires conquis par la Russie, ils sont pris en charge par une équipe multipartite rassemblant plusieurs organisations de la société civile, sous la coordination du commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien. Dès la première rencontre avec les services de sécurité ukrainiens, des psychologues de Voices of Children sont aux côtés des familles. Au début de la guerre, les enfants que Yulia Tukalenko accompagnait revenaient surtout de séjours prolongés dans des camps de vacances où ils avaient été soumis à la propagande russe. Mais depuis de nombreux mois maintenant, les mineurs qu'elle traite ont été exposés à un endoctrinement encore plus poussé, y compris souvent un apprentissage militaire, et ce, directement à leur école. Dès le primaire, les élèves sont invités à participer à des mouvements militarisés, indique la psychologue qui a suivi une centaine de mineurs ukrainiens à leur retour de territoires occupés par la Russie. Les autorités russes créent un climat dans lequel les jeunes ont le sentiment qu'en participant à ce type de mouvement, ils ont de la valeur, ils prennent part à quelque chose d'important et de cool. Armée des jeunes. Le plus connu de ces mouvements est Yunarmia, Armée des jeunes en français, créé en 2016 par le ministère russe de la Défense pour les enfants de 8 à 18 ans. Ce groupe, offrant une formation pré-militaire, compterait aujourd'hui 1,8 million de membres en Russie et dans les territoires occupés par la Russie. Un autre mouvement, Orliata Rossi, Aiglon de Russie en français, a été créé en 2021 par le ministère russe de l'Éducation spécifiquement pour les enfants du primaire. Plus de 4 millions de jeunes participeraient aux activités patriotiques de ce groupe. Des témoignages d'écoliers récoltés par la BBC en 2025 révèlent que les enfants faisant partie de Yunarmia bénéficient de faveurs à l'école, les incitant à s'enrôler. Ils mangent de meilleurs repas, se voient décerner des notes plus élevées à leurs évaluations, reçoivent des médailles et des cadeaux et ont le privilège de porter un uniforme militaire. La BBC a aussi révélé que des membres de Yunarmia apprennent le maniement des armes et le pilotage des drones. Les enfants rencontrent aussi des recruteurs militaires russes. De son côté, l'Institut pour l'étude de la guerre à Washington a indiqué que des enfants ukrainiens vivant dans des territoires occupés sont envoyés en Russie, notamment avec le groupe Voin, guerrier en français, pour participer à des camps d'entraînement militaro-patriotiques. D'autres effectuent des voyages en Russie pour visiter des installations militaires, comme des sites de lancement de missiles balistiques. L'objectif du Kremlin est de former une génération d'enfants ukrainiens favorables aux forces armées russes et souhaitant y faire carrière ou les soutenir, précise l'Institut. Déportation cognitive. Pour Miroslava Karchenko, avocate en chef de Save Ukraine, une organisation vouée au rapatriement et à la réhabilitation des enfants ayant été transférés en Russie ou ayant vécu dans des territoires occupés, les enfants ukrainiens soumis à cet endoctrinement ne subissent pas qu'un déracinement physique. Il s'agit aussi d'une déportation cognitive ou mentale. Ils ne sont pas seulement déracinés de là où ils vivent. Leurs esprits aussi y sont volés et on essaie de les transformer en enfants russes. Cette pratique est d'autant plus dommageable qu'elle est exercée sur des êtres dont l'identité est en formation, pointe Yulia Tukalenko. L'identité se construit normalement à partir de racines historiques et culturelles, mais la militarisation vient remplacer cette construction identitaire. Un ennemi est ensuite trouvé, et il se concentre dessus, dit-elle en rappelant que les enseignants russes inculquent aux élèves, même ukrainiens, que l'Ukraine est l'ennemi numéro un. Quand ces enfants reviennent en Ukraine, le plus important est de rétablir les liens de confiance, rencontre la psychologue. De l'espace leur est offert pour qu'ils fassent leur quête de vérité par eux-mêmes. Nous savons que nous ne pouvons pas exercer de pression, car ils ont déjà été soumis à une pression en Russie ou dans les territoires occupés, et ça pourrait raviver le sentiment qu'on reproduit le même schéma d'endoctrinement. Les enfants doivent aussi réapprendre qu'ils peuvent s'exprimer librement et qu'ils n'auront pas de punition ou de sanction s'ils pensent différemment. Ces apprentissages se font principalement à travers des rencontres individuelles avec des psychologues pour les adolescents et des ateliers de groupe d'art-thérapie, par exemple, pour les plus jeunes. Des activités sociales et des camps sont aussi organisés par Voices of Children. L'objectif est de créer un espace sécurisant, indique Yulia Tukhalenko. L'atmosphère est dépourvue de jugement. Nous ne formulons pas de conclusions critiques sur leur comportement, leur personnalité ou sur qui ils sont. Puisqu'en fin de compte, le but est de permettre aux enfants d'être simplement des enfants, comme dans tout pays. Vous écoutez « Le combat des enfants ukrainiens », un dossier de Magdalene Boutros paru le 4 juillet 2026 dans Le Devoir. Troisième texte. Des enfants ukrainiens déplacés selon un plan soigneusement organisé. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, l'Ukraine a observé la déportation ou le déplacement de force de 20 610 enfants ukrainiens vers des territoires contrôlés par la Russie. Une commission de l'ONU a conclu qu'il s'agit là d'un crime contre l'humanité. Pendant que la justice internationale suit son cours, des pays comme le Qatar et le Canada s'activent pour permettre à un maximum d'enfants ukrainiens de rentrer chez eux. Le constat de la commission d'enquête des Nations Unies sur l'Ukraine est sans équivoque. Les autorités russes ont déporté et transféré de force des enfants dans le cadre d'un plan soigneusement organisé et mis en œuvre au plus haut niveau du gouvernement russe et des autorités régionales, y compris dans les territoires occupés par la Russie, a tranché en mars son président Éric Meuse. Selon les autorités ukrainiennes, 2274 enfants ont pu être rapatriés depuis le début de la guerre, en février 2022. La commission de l'ONU a elle-même observé la déportation et le transfert de 1205 enfants ukrainiens et d'y être au courant de nombreux autres cas. 4 ans après le début de la guerre, environ 80% de ces enfants ne sont toujours pas revenus, a précisé M. Meuse. Nous ne savons pas exactement où se trouvent ces enfants, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, quelque part en Sibérie ou ailleurs. Les autorités russes ne communiquent aucune information à leur sujet, souligne au Devoir Miroslava Karchenko, avocate en chef de Save Ukraine, une organisation vouée au rapatriement et à la réhabilitation des enfants transférés en Russie ou vivant dans des territoires occupés. Scénario. Plusieurs scénarios ont conduit au déplacement de ces enfants. Dans certains cas, la Russie a déporté ou transféré de force non pas un seul enfant, mais des familles entières, des rues entières et des villages entiers au début de l'invasion à grande échelle, indique Maître Karchenko. Des habitants de Mariupol et des résidents de villages de la région de Kharkiv ont été soumis à ce type de déplacement sous contrainte. D'autres enfants se trouvent non accompagnés en Russie ou dans des territoires occupés par la Russie. Des orphelins et des enfants handicapés et vulnérables ont été déplacés en groupe au début de l'invasion, notamment dans la région de Kherson. Des centaines d'autres enfants qui résidaient dans des territoires tombés sous le joug russe ont été envoyés dans des camps de vacances et n'ont pu rentrer chez eux à la fin de leur séjour. D'autres encore, qui avaient été envoyés dans des villages chez leurs grands-parents pour être en sécurité, se sont retrouvés pris derrière la ligne de front dans des territoires passés aux mains des forces du Kremlin. Dans ces cas, les autorités russes menacent de prendre les enfants aux grands-parents et mettent parfois cette menace à exécution puisqu'ils ne sont pas les tuteurs légaux, rapporte Yulia Tukhalenko, psychologue à la Fondation Voices of Children en Ukraine. Si l'on ajoute à ces enfants les centaines de milliers d'autres qui habitent dans des territoires conquis par la Russie, la Crimée, la vaste majorité des régions de Donetsk et Louhansk, et des portions des régions de Kherson et Zaporizhia, un total de 1,6 million d'enfants ukrainiens vit sous le joug du Kremlin. Ces mineurs sont soumis à un endoctrinement, y compris souvent un apprentissage militaire menant, dans certains cas, à un enrôlement dans les forces militaires russes. Opération de dissimulation. Loin d'avoir instauré un mécanisme pour faciliter le retour de ces enfants, Le Kremlin a coordonné des mesures juridiques et pratiques afin d'organiser leur placement à long terme dans des familles ou des institutions, a souligné Éric Meuse. Trois mois après le début de la guerre, en mai 2022, le président Vladimir Poutine a adopté un décret facilitant l'adoption d'enfants ukrainiens et leur obtention de la nationalité russe. Une vaste opération de dissimulation a été mise en place, dénonce Maître Kartchenko. Les autorités russes modifient les informations sur les enfants ukrainiens adoptés. Elles changent leur nom, leur date et leur lieu de naissance. Ce subterfuge leur permet de clamer qu'il s'agit d'enfants russes et non d'orphelins ukrainiens, ajoute-t-elle. Lorsque Kiev tente de les rapatrier, les autorités nous transmettent ces informations qui ne correspondent pas à celles des enfants ukrainiens. Moscou nie avoir procédé à de tels changements d'identité et rejette les accusations de déplacement forcé d'enfants. Le Kremlin affirme plutôt avoir procédé à des évacuations humanitaires pour protéger les enfants de la guerre et les avoir sauvés. Ces justifications n'ont pas convaincu la Cour pénale internationale qui a lancé en 2023 des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, commissaire aux droits de l'enfant de la Russie, pour déportation et transfert illégaux d'enfants. Travail de l'ombre. Ce chapitre sombre de l'invasion russe de l'Ukraine mobilise de nombreux pays, dont le Qatar et le Canada. Depuis le début de la guerre, 87 enfants ukrainiens ont pu être réunis avec leurs familles grâce au travail de médiation du Qatar. Le pays, qui entretient des liens diplomatiques avec Moscou et Kiev, négocie dans l'ombre la restitution des enfants et organise leur retour par l'entremise de son ambassade à Moscou, puis des tiers pays, en collaboration avec la Croix-Rouge. Quant au Canada, le pays co-préside la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, qui coordonne les efforts mondiaux et veille à ce que ce problème ne soit pas oublié. Parce qu'une paix durable ne sera pas possible sans le retour de ces milliers d'enfants, a fait valoir au devoir une haute responsable du gouvernement canadien. C'était « Le combat des enfants ukrainiens », un dossier de Magdalene Boutros paru le 4 juillet 2026 dans Le Devoir.